tout de suite le moment de retrouver Pour la dignité, cette émission sur les droits humains avec et par Régis Coulange, responsable formation à Amnesty International, qui n'est pas venu seul aujourd'hui. Bonjour Régis.
Oui, bonjour Odile, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Charlotte, qui vient de rejoindre le groupe de Digne à l'occasion de la Foire au Livre. Elle nous a bien aidés. Et elle a participé à sa première réunion de groupe. Voilà, bonjour Charlotte.
Bonjour.
Peut-être tu peux un peu nous te présenter et nous dire un peu pourquoi tu milites à Amnesty.
Alors, oui, je vais prendre le temps de me présenter. Donc, comme vous l'avez compris, je m'appelle Charlotte, j'ai 33 ans. Ça fait quelques années que je suis adhérente à Amnesty et j'étais déjà sympathisante depuis très longtemps, voilà. Donc, j'ai rejoint le groupe de Digne très récemment, mais cet engagement, il me tient vraiment à cœur et les missions d'Amnesty sont des missions qui me sont chères et surtout qui sont importantes pour les droits humains. Il reste encore tellement à faire. Après, je pense que chacun, à son petit niveau, peut apporter une pierre à l'édifice et faire changer les mentalités. Et défendre les droits humains dans le monde est important pour moi et j'en fais l'un de mes combats. Alors, pour la petite histoire, un peu plus comprendre comment je suis arrivée là. Donc, j'ai commencé déjà au collège et au lycée où je participais aux foires et livres du groupe d'Amnesty de Barcelonnette où j'étais avant. Et ça a été du coup un peu le début, mais je m'investissais que très peu. Après, j'ai participé à des campagnes 10 personnes en danger, donc qui se passent en décembre chaque année, et j'ai signé régulièrement des pétitions. Et ensuite, à mes 18 ans, après mon bac, je suis partie à Strasbourg et je suis tombée par hasard dans le journal 20 minutes sur un article parlant de la date d'exécution de Troy Davis. Et on va dire que ça a été un peu l'élément précurseur de mon investissement au sein de l'association. Alors j'ai même écrit du coup à cette occasion, le jour de son exécution, un poème pour condamner la peine de mort dans le monde que j'ai envoyé à Amnesty France et qui a été remis en hommage à sa famille. Et du coup pour moi ça a été ma première grande action si on peut dire et c'est vraiment là que j'ai compris l'importance de l'existence d'une association comme Amnesty. Et cela fait vraiment environ un an que j'ai voulu me réinvestir plus intensément dans l'association mais sans oser faire le premier pas. Puis j'ai fini par oser et me voilà là aujourd'hui. J'ai du temps libre puisque je ne travaille que le matin et je veux l'investir dans des choses qui me tiennent à cœur. Et c'est avec un grand plaisir que j'ai décidé de rejoindre le groupe de Digne, celui de Barcelonnette étant trop loin géographiquement désormais, pour m'y investir pleinement et surtout que ma voix puisse compter et faire changer les choses sur les valeurs et les combats que je défends et qui, je le répète, sont importants. Afin de m'investir plus intensément dans le groupe, je suis depuis peu de temps relais sur le groupe pour le droit des femmes dans le monde, un combat qui m'intéresse plus particulièrement car il y a encore vraiment beaucoup de choses qui doivent changer et évoluer dans le monde sur le droit des femmes. Et je lance aussi aujourd'hui un appel aux jeunes du Digne et des environs pour les inviter à nous rejoindre au sein de notre groupe et à participer en fonction de leur temps disponible aux actions proposées. Il faut que le combat pour les droits humains se pérennise et que de nouvelles personnes, plus jeunes et défendant les valeurs de cette association, s'investissent. Chacun pouvait faire changer les choses. Et au fond, qu'est-ce que c'est quelques minutes de temps en temps accordées à ces combats qui souvent sauvent des vies? Alors si vous êtes jeune et que vous souhaitez vous investir à nos côtés, nous vous accueillerons avec plaisir et sachez surtout que vous n'êtes pas obligé d'accorder tout votre temps libre à cette association. Vous faites en fonction de vos disponibilités et de votre envie. Et donc, je conclurai de savoir si on se dit à bientôt.
Voilà, merci Charlotte. Alors, jeune ou moins jeune, venez nous rejoindre. Nous avons besoin de monde pour continuer à militer dans ce monde très violent. D'ailleurs, le thème de cette émission porte sur le rapport annuel qui a été publié en avril, le mois dernier, et qui est quand même assez alarmiste. Voilà, alors on va d'abord commencer par parler de la visite de Xi Jinping, puisqu'il est arrivé hier, il passe 2 jours en France. Et donc cette visite s'inscrit dans un contexte de recul dramatique des droits et libertés en Chine continentale et à Hong Kong, 35 ans après le massacre de Tiananmen. La France ayant plusieurs fois mis en avant sa volonté d'entretenir un dialogue exigeant et systématique avec la Chine, en matière de droits humains, nous appelons le président de la République, Emmanuel Macron, à respecter cet engagement et à évoquer avec son homologue Xi Jinping la situation des droits fondamentaux en Chine. En effet, depuis son arrivée au pouvoir en 2013, Nous avons documenté un rétrécissement organisé des espaces d'expression et de manifestation et l'élargissement de l'action de la Chine pour bâillonner toute voix considérée comme portant atteinte à la ligne du parti. L'année 2024 célèbre les 60 ans de relations diplomatiques entre la France et la Chine. Tout renforcement des liens avec le pays doit permettre d'obtenir des engagements de la part des autorités chinoises pour faire cesser les violations massives des droits humains. Alors voici quatre sujets majeurs sur lesquels il est impératif de mettre à l'ordre du jour lors de cette visite. D'abord, la libération des personnes détenues arbitrairement. En Chine, les autorités ignorent les mises en garde de la communauté internationale concernant les droits des minorités et elles étouffent en interne toute forme de contestation du régime. Des journalistes, des avocats, des défenseurs des droits humains, ainsi que leurs proches et leurs familles, doivent faire face à une surveillance constante. Il y a par exemple Zhang Zhan, une journaliste qui avait émis des critiques pendant la crise du Covid et qui est emprisonnée depuis 4 ans. Il y a Shou Hongtong, une avocate hongkongaise, et bien d'autres encore. On demande aussi la fin des persécutions au Xinjiang. Dans cette région autonome, les Ouïghours, les Kazakhs et d'autres minorités ethniques à majorité musulmane sont toujours victimes d'emprisonnements arbitraires massifs, de tortures et de persécutions à grande échelle orchestrées par l'État qui s'apparentent à des crimes contre l'humanité. Nous appelons Emmanuel Macron à demander la libération immédiate des centaines de milliers de personnes toujours arbitrairement détenues dans les camps et prisons au Xinjiang. Si vous allez sur le site amnesty.fr, vous verrez une petite vidéo sur la fille d'un des militants ouïghours, hein, qui était professeur de mathématiques et qui est en prison, arrêté par la Chine. On demande aussi l'abrogation de la loi sur la sauvegarde de la sécurité nationale à Hong Kong. En effet, la Chine impose à Hong Kong son système politique au territoire rétrocédé. Les militants pro-démocratie font face à une répression et à un harcèlement judiciaire renforcé par la loi sur la sauvegarde de la sécurité nationale de Hong Kong, dite législation de l'article 23. On demande aussi un multilatéralisme responsable qui commence par le respect des droits internationaux. Alors que la politique étrangère de la Chine prône un multilatéralisme responsable, elle sape aujourd'hui les principes et procédures qui fondent le système international en matière des droits humains. Elle refuse notamment de mettre en œuvre les recommandations du rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme de 2022 concernant la région autonome ouïghour du Xinjiang. Cela participe à fragiliser encore l'ordre mondial bâti après 1945, aujourd'hui au bord de la rupture. Voilà, donc on espère qu'Emmanuel Macron profitera de ses entretiens avec Xi Jinping pour ces deux jours pour réitérer ses demandes faites par la France à la Chine dans le cadre de son examen périodique universel au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. La France avait soumis des recommandations importantes aux représentants chinois qui doivent être rappelés lors de cette réunion. On va maintenant écouter une chanson de Sylvain Lelièvre sur la place Tiananmen.
Ils avançaient vers toi, place Tiananmen. Mais toi tu continuais tes grands gestes d'oiseau. Soudain tout a stoppé, place Tiananmen. Les tourelles un à un sont sortis les soldats. Tu montais les saluer, place Tiananmen. C'était pour la tendresse, un premier coup d'état, un premier coup d'état. Thank you. laisser jouer, place Tiananmen. Tout le temps qu'il fallait pour vous prendre en photo, filmé, fiché, fichu, place Tiananmen. Comme à Prague autrefois ou comme à Santiago, vous étiez tous piégés, place Tiananmen. Quand la fête d'un coup est devenue l'abattoir, c'est comme partout ailleurs, place Tiananmen. Du moment qu'il s'agit de massacrer l'espoir, de massacrer l'espoir. C'est brouillé, place Tiananmen. Il paraît qu'on t'a pris, mis à mort sur le champ, pour entrave à la paix, place Tiananmen. Et qu'on a facturé la balle à tes parents. Aujourd'hui l'ordre règne, place Tiananmen. Y'a plus de crottes de pigeons sur le mausolée de Mao. Mais pour moi désormais, place Tiananmen, c'est ta danse à jamais. Devant les chars d'assaut, devant les chars d'assaut. Aujourd'hui l'ordre règne, place Tiananmen. Y'a plus de grottes de pigeons sur le mausolée de Mao. Et pour moi désormais, place Tiananmen, c'est ta danse à jamais, devant les chars d'assaut, devant les chars d'assaut, devant les chars d'assaut.
Voilà, rappelons-nous de Tiananmen. Donc, je vous ai dit qu'on allait parler du rapport annuel. C'est le livre le plus détesté par de nombreux dirigeants parce qu'il dresse la situation des droits humains dans le monde sur une année. Donc, il est sorti en avril 2024 et bien sûr, il dresse la situation des droits humains dans 155 pays pour 2023. Alors, bien sûr, nous avons été attaqués par le passé. Nous le sommes aujourd'hui. Et nous continuerons de l'être. Pourquoi ? Parce que nos enquêtes dérangent. D'ailleurs, c'est précisément leur rôle. En effet, nous avons fait, par le passé, l'objet de menaces, d'attaques, de pressions, de critiques provenant de tous bords. En mai 2005, par exemple, malgré des rapports accablants, la Maison-Blanche conteste nos enquêtes sur Guantanamo. En juin 2007, le Vatican appelle ses fidèles à ne plus financer Amnesty International en raison de ses rapports demandant la dépénalisation de l'avortement. En juillet 2020, le président d'Amnesty International Turquie est condamné à 6 ans de prison suite à nos enquêtes sur les droits des personnes réfugiées. En avril 2022, victime de harcèlement de la part des autorités, nous sommes contraints de fermer nos bureaux en Inde. Dans le même temps, le département de justice russe nous expulse du pays à la suite d'une série d'enquêtes sur la guerre en Ukraine et sur la répression qui sévit en Russie. En mai 2023, les locaux d'Amnesty International sont vandalisés à Nice, en France, par un groupuscule violent. La Maison-Blanche, les autorités turques, indiennes, russes ou iraniennes, le Vatican, des groupuscules violents ou encore le Parti communiste chinois, tous... Toutes et tous ont critiqué notre travail. Si on se fait autant attaquer, c'est forcément que l'on doit déranger. Chaque jour, nos équipes de recherche enquêtent à travers le monde entier sur les violations des droits humains. Chaque année, la somme de nos enquêtes est publiée sous la forme d'un rapport mondial que vous pouvez lire sur le site amnesty.org. Nos enquêtes sont notre force, nous établissons les faits. Dans une époque de post-vérité où les fake news pullulent, nous avons besoin de sources fiables. C'est pourquoi nos enquêtes sont notre force. Nous établissons les faits. Nos enquêtes ont du pouvoir. Grâce à notre travail d'enquête rigoureux, notre mouvement, fort de plus de 10 millions de membres et de sections dans plus de 50 pays, peut alerter et mobiliser la société civile pour faire pression sur les décideurs afin de mettre fin aux violations des droits humains. avec des résultats concrets à la clé. Par exemple, en 1977, nous recevions le prix Nobel de la paix pour notre campagne pour mettre fin à la torture. En 1984, nous obtenons une convention mondiale contre la torture. En 2002, nous assistons à la création de la Cour pénale internationale. En 2013, nous célébrons l'adoption du traité international sur le commerce des armes. Notre seul camp, c'est celui des droits humains. Pour garantir l'indépendance et l'impartialité de nos enquêtes, notre organisation est indépendante de toute institution, idéologie, intérêt économique et religion. Pour garantir notre indépendance, nous avons besoin d'assurer notre indépendance financière. Toutes nos actions sont financées grâce au soutien indispensable de nos membres, des groupes et de nos donateurs. Nos valeurs fondamentales, l'indépendance, l'impartialité et l'exactitude, notre force, nos enquêtes et notre mouvement de 10 millions de personnes, notre unique boussole, le droit international, notre seul intérêt, le respect des droits humains. Voilà, nous allons maintenant écouter une chanson ancienne, maintenant, Jean-Jacques Goldman, Ensemble.
Souviens-toi, était-ce mai, novembre ici ou là, était-ce un lundi? Je ne me souviens que d'un mur immense, mais nous étions ensemble, ensemble, nous l'avons franchi. Souviens-toi, était-ce mai, novembre ici ou là, était-ce un lundi? Je ne me souviens que d'un mur immense, mais nous étions ensemble, ensemble, l'avons franchi. Souviens-toi, ensemble, était-ce un lundi? Franchi ici, toi, là, était-ce un lundi? Je ne me souviens que d'un mur immense, mais nous étions ensemble. S'ajoute à ma vie, j'ai besoin de nos chemins qui se croisent. Quand le temps nous rassemble ensemble, tout est plus joli. Reviens-moi de tes voyages si loin. Reviens-moi, tout ça ajoute à ma vie. J'ai besoin de nos chemins qui se ensemble, tout est plus joli. Étions ensemble, ensemble, nous l'avons franchi.
Souviens-toi,
nous l'avons franchi.
Souviens-toi,
trop franchi.
Magnifique chanson. Et souvenez-vous, au milieu des années 80, en effet, le mur de Berlin tombait. C'était la libération de Nelson Mandela et la fin de la guerre froide. C'est alors synonyme d'un espoir d'ouverture vers une ère nouvelle pour l'humanité. Or, que se passe-t-il de nos jours? Le nombre de personnes vivant dans les démocraties, c'est-à-dire de façon générale, dans des pays où s'applique l'état de droit, où l'exécutif est soumis à un contrôle, où les libertés civiles sont respectées, ce nombre de personnes vivant dans les démocraties est revenu en 2023 au niveau de 1985. À l'occasion de la sortie de notre rapport, Agnès Callamard, qui est la secrétaire générale d'Amnesty International au niveau mondial, nous livre son analyse. Elle dénonce notamment un retour en force des pratiques et des idées autoritaires et alerte sur les dangers des technologies pour les droits humains. Elle nous dit « Jamais je n'aurais pensé que j'évoquerais un jour le film des années 1980, Retour vers le futur, pour parler de la situation en matière des droits humains. Nous en sommes pourtant là, dans un monde qui remonte dans le temps en tourbillonnant, fonçant vers l'avant 1948, année marquée par la promesse d'une universalité des droits fondamentaux, tout en se ruant encore plus vite en avant vers un avenir aux mains des géants technologiques et d'une intelligence artificielle générative échappant à tout contrôle. Les pratiques et les idées autoritaires se sont répandues au sein d'un grand nombre de gouvernements et de sociétés. Fondées sur la haine et se nourrissant des peurs, le discours public dominant a empiété sur l'espace civique et s'est employé à diaboliser les individus et les groupes marginalisés, et plus particulièrement les personnes réfugiées ou migrantes et les membres des populations racisées. Le retour en arrière en matière des droits des femmes et d'égalité des genres s'est accentué en 2023, et bon nombre d'acquis de ces 20 dernières années se sont retrouvés menacés. En Afghanistan, le fait d'être une femme ou une fille est devenu de fait un crime. Les talibans ont adopté en 2023 des dizaines de décrets destinés à faire disparaître les femmes de la vie publique. De même, en Iran, les autorités ont poursuivi leur violente répression du mouvement « Femmes, vie, liberté » et se sont répandues en déclarations haineuses qualifiant de virus, de maladie sociale ou de désordre la décision de certaines femmes de retirer leur voile. Aux États-Unis, 15 États interdisaient désormais totalement l'avortement ou ne l'autorisaient plus qu'à titre exceptionnel. En Pologne, au moins une femme est morte de ne pas avoir pu légalement bénéficier des services d'avortement que son État nécessitait. L'Ouganda a adopté une loi anti-gay très répressive, tandis que certains responsables politiques américains se faisaient les chantres de discours, de politiques et de réglementations hostiles aux personnes transgenres. Alors que la richesse globale n'a jamais été aussi importante à l'échelle de la planète, l'année 2023 a été, comme l'a déclaré la Banque mondiale, placée sous le signe des inégalités. Les défenseurs des droits économiques et sociaux ont été parmi les militants les plus fréquemment pris pour cible par la répression dans des pays aussi divers que le Royaume-Uni, la Hongrie ou l'Inde. Des militants pour le climat ont été qualifiés de terroristes pour avoir dénoncé des décisions gouvernementales d'accroissement de la production et du financement des énergies fossiles. Des personnes qui critiquaient la manière dont l'économie était gérée au Moyen-Orient ont été réduites au silence et arbitrairement arrêtées, tout comme des syndicalistes dans la région Asie-Pacifique ou des militants engagés dans la lutte contre la corruption en Afrique de l'Ouest. On va écouter maintenant la chanson des républicains espagnols, No Pasarán.
Los moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar, mientras queden milicianos, los moros no pasarán. mientras quieren miliciano, los moros no pasarán, no pasarán, no pasarán. Aunque me tiré en el puente y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. No pasarán, no pasarán. Diez mil veces que los piden, diez mil veces los haremos. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingeniero. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingeniero. No pasarán, no pasarán. En el Ebro se han hundido las banderas italianas. En los puentes solo quedan las que son republicanas. Y en los puentes solo quedan las que son republicanas. No pasarán, no pasarán, no pasarán. No pasará, no pasará.
Voilà, maintenant, espérons qu'ils ne repasseront pas. Voilà, donc je vous ai dit que notre machine à remonter le temps métaphorique nous avait projeté avant 1985, avant la chute du mur de Berlin. Mais on peut, hélas, remonter encore plus vers un enfer dont les portes avaient pourtant été verrouillées en 1948. Plus jamais ça, avait déclaré l'humanité au lendemain d'une guerre mondiale qui avait fait quelque 55 millions de morts dans la population civile et après avoir été confrontée à l'horreur indicible d'un holocauste qui s'était traduit par l'extermination de 6 millions de personnes juives et de millions d'autres individus. Malheureusement, en 2023, les leçons morales et juridiques issues de ce « plus jamais ça » ont été réduites en miettes. À la suite des crimes monstrueux perpétrés par le Hamas le 7 octobre 2023, qui se sont soldés par la mort de plus d'un millier de personnes, pour la plupart des civils israéliens, des milliers de blessés et la prise de quelque 245 otages et prisonniers et prisonnières, Israël s'est lancé dans une campagne de représailles qui s'est muée en une expédition punitive contre toute une population. Cette campagne s'est traduite par des bombardements aveugles ou délibérés contre des personnes et des infrastructures civiles, le blocage de l'aide humanitaire et une famine organisée. Pour des millions de personnes du monde entier, Gaza symbolise aujourd'hui l'échec moral retentissant de nombre des architectes du dispositif mis en place à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et leur incapacité à défendre l'engagement absolu en faveur du principe d'universalité, de notre humanité commune et du plus jamais ça. Ces principes inscrits dans la Charte des Nations Unies, les conventions de Genève, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et le droit international relatif aux droits humains ont été bafoués. Si cela est particulièrement manifeste de la part des autorités israéliennes, Israël n'est cependant pas le seul coupable. Les États-Unis ont aussi joué un rôle déterminant, comme certains dirigeants et dirigeantes européens et les responsables de l'Union européenne. C'est également le cas de celles et ceux qui continuent d'envoyer des armes à Israël, qui n'ont pas condamné les incessantes violations des droits perpétrées par ce pays ou qui rejettent les appels à un cessez-le-feu. Leur attitude est typique de la politique de deux poids, deux mesures, dénoncée depuis des années par Amnesty International. Certains acteurs puissants sont même allés encore plus loin, se montrant prêts à mettre en péril l'ensemble du système codifié mis en place en 1948, méprisant les principes fondateurs de l'humanité et de l'universalité et nous dépouillant de notre capacité en tant que communauté mondiale à éviter le pire. Ceci s'engouffre dans la brèche ouverte par l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, une violation de la Charte des Nations Unies commise au mépris de l'état de droit international. L'agression russe a continué de se traduire par des attaques délibérées contre des civils, faisant des milliers de victimes et détruisant massivement des infrastructures civiles, et notamment les installations ukrainiennes destinées au stockage et à l'exportation des céréales. De même, la Chine, autre membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, a enfreint le droit international en protégeant le régime militaire du Myanmar et ses frappes aériennes illégales, en pratiquant l'arrestation arbitraire et la torture, et en cherchant à dissimuler au regard extérieur les crimes contre l'humanité qu'elle continue de commettre. Nous en avons parlé, notamment contre la minorité ouïghour. On va maintenant écouter une chanson de Jean Ferrat pour nous rappeler cette période d'avant 48, Nuit et brouillard.
Ils étaient 20 et 100, ils étaient les milliers, nous et maigres tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leur dés avait été jeté. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Il s'appelle Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu, d'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel, ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez, en regardant au loin, en regardant dehors. Votre chair était tendre à leurs chiens policiers. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterais les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez indécent, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez indécent.
Voilà, dans le rapport annuel, une large part est consacrée aussi à l'arrivée des nouvelles technologies et certaines qui nous inquiètent énormément, et c'est un avenir dont nous ne voulons pas. En effet, ChatGPT et d'autres outils de l'intelligence artificielle nous ont précipités à une vitesse accélérée vers le futur. Et ces abus liés à l'usage de ces technologies. En effet, elles ouvrent la porte à une érosion générale des droits fondamentaux, perpétuant les politiques racistes et favorisant la désinformation et les restrictions de la liberté d'expression. Les géants technologiques ont choisi d'ignorer ou de minimiser ces effets néfastes, y compris en situation de conflit armé comme en Éthiopie, en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, au Myanmar ou au Soudan. Face à la montée alarmante des contenus en ligne incitant à la violence ou plus généralement nocifs, aussi bien contre les Palestiniens que contre les personnes juives, on a pu constater en Europe et aux États-Unis une forte recrudescence des crimes haineux motivés par l'islamophobie et l'antisémitisme. En 2023, les États ont de plus en plus eu recours aux technologies de reconnaissance faciale comme aide au maintien de l'ordre lors de manifestations et d'événements sportifs ou contre des populations marginalisées, en particulier des personnes migrantes ou réfugiées. Ils ont fait appel à ces technologies abusives dans le cadre de leur politique migratoire et de contrôle aux frontières, notamment à des technologies permettant l'externalisation des contrôles d'entrée sur leur territoire, à des logiciels d'analyse des données et à des systèmes de prise de décision s'appuyant sur des données biométriques et algorithmiques. Les logiciels espions ont continué d'échapper dans une large mesure à toute réglementation, alors que les atteintes aux droits humains qu'ils entraînaient étaient attestées depuis des années. Amnesty International a ainsi révélé en 2023 que le logiciel espion Pegasus avait été utilisé contre des journalistes et des militants de la société civile en Arménie, en Inde, en République dominicaine et en Serbie. En outre, des logiciels espions provenant de l'Union européenne ont été vendus à des pays du monde entier. Le Parlement européen a réagi en adoptant en novembre 2023 une résolution critiquant l'absence de mesures destinées à limiter les atteintes commises par le secteur des logiciels espions. Cependant, puisque les hors-la-loi de la tech et leurs outils peu recommandables sont laissés libres de sillonner à leur guise le Far West numérique, les atteintes aux droits humains de ce genre risquent fort de se multiplier en 2024, année électorale majeure. Tout cela n'est qu'un avant-goût d'un avenir qui déjà se profile et dont nous ne voulons pas. La régression qui s'est produite en 2023 sur le plan des droits humains n'est pas passée inaperçue. Bien au contraire, dans le monde entier, des hommes et des femmes se sont mobilisés face à ce retour en arrière, faisant ainsi preuve d'une solidarité internationale sans précédent. Le conflit entre Israël et le Hamas a provoqué des centaines de manifestations à travers le monde. Des millions de personnes ont dénoncé les meurtres de civils, appelé à la libération des otages et exigé un cessez-le-feu. Le secrétaire général des Nations Unies, les responsables de différents organes de l'ONU et de nombreuses organisations humanitaires ont pris des mesures inédites pour condamner les crimes de guerre commis dans le sud d'Israël et à Gaza, et pour demander à Israël de respecter le droit international. Les résolutions appelant à un cessez-le-feu adopté fin 2023 par l'Assemblée générale des Nations Unies ont reçu le soutien d'une très large majorité d'États. L'Afrique du Sud a pour sa part introduit un recours auprès de la Cour internationale de justice accusant Israël de violer, par son comportement à Gaza, la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide et soulignant le rôle central que devait jouer le système international codifié mis en place après la Seconde Guerre mondiale. L'année 2023 a aussi été celle de la montée en puissance de l'idée d'un régime mondial favorisant une fiscalité plus équitable, afin de lutter contre l'évasion ou l'optimisation fiscale et de mobiliser des moyens en faveur des pays à faible revenu. L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté en novembre, contre la volonté des pays riches, une résolution proposée par les États d'Afrique et mettant en place une commission internationale chargée de rédiger, d'ici juin 2025, un projet de convention de l'ONU sur la fiscalité. Nombreux ont été celles et ceux qui, en 2023, ont résisté aux forces qui tentaient de ramener le monde dans la situation de 1985, voire d'avant 1948, et qui les ont entravés. Beaucoup aussi ont défilé et manifesté pour s'opposer aux forces qui entendaient nous propulser dans un futur que nous ne souhaitons pas. Toutes ces personnes ont également eu une influence déterminante sur ce qu'a été l'année 2023 envers et contre tout. J'espère qu'en 2048, nous dit Agnès Callamard, ou même en 3048, les diplomates et les militants se remémoreront cette année-là comme une année où beaucoup de gens bien, un peu partout dans le monde, ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Des gens qui se sont dressés pour dire stop au nom de notre humanité commune. On va maintenant écouter une chanson de Moustaki sans la nommer.
Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle, comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage, jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage. Une plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout.
Voilà, alors depuis le début de l'émission, pratiquement, je vous parle du rapport annuel paru en avril 2024 sur la situation des droits humains dans le monde. Et vous allez me dire, et la France ? Il y a bien sûr un chapitre sur la France, et en France, ben, comme dans presque tous les pays, on observe un recul des droits et des libertés en 2023. Répression violente des manifestations contre la réforme des retraites, interdiction de manifestations, mort d'un jeune de 17 ans par un tir de la police, accentuation des discriminations, dégradation des droits des personnes exilées avec le vote de la loi Asile et Immigration. Voici l'érosion des droits et des libertés. Jusqu'où ira ce recul ? C'est la question qu'on s'est posée en rédigeant le chapitre sur la France. Et en jetant un œil vers le passé, nous ne pouvons que déplorer le fait que la dégradation des droits humains en France a été constante depuis une vingtaine d'années. Les libertés reculent. L'impératif sécuritaire semble avoir pris le dessus sur la protection des libertés, qui sont trop souvent restreintes au nom du besoin de sécurité. C'est d'autant plus vrai que depuis que des attentats ont endeuillé la France et que la lutte contre le terrorisme justifie des mesures et des pratiques illégales en droit international. Depuis 2015, les lois sur l'état d'urgence, puis la loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, qui a entériné des mesures censées être provisoires, la loi sécurité globale, la loi séparatisme, celle sur le renseignement, etc., toutes ont inclus des mesures attentatoires aux libertés, comme autant de coups de canif législatifs dans l'édifice des droits fondamentaux. Cette liste est allongée en 2023 avec la loi relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024, instaurant la vidéosurveillance algorithmique. Tout porte à croire que l'intention sera, comme précédemment, de la pérenniser après la phase d'expérimentation. Ce type de technologie de surveillance présente de vrais risques pour les droits humains. La loi Asile et Immigration, votée en décembre, était aussi essentiellement basée sur un narratif ultra-sécuritaire qui semble justifier toutes les entorses aux droits humains, d'autant plus qu'il s'agit de personnes étrangères. 2023 était l'année de grandes mobilisations populaires, mais aussi d'interdictions abusives de manifester, notamment en janvier contre la réforme des retraites, en juillet suite aux troubles qui ont suivi la mort du jeune Naël, en octobre en soutien aux droits des Palestiniens. Lors des manifestations contre la réforme des retraites, nous avons dénoncé des arrestations abusives et un recours excessif à la force dans le maintien de l'ordre. Des armes dangereuses, dites à létalité réduite, ont cette année encore mutilé des manifestations. Le 30 juin dernier, la porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies déclarait, trois jours après la mort de Naël, qui était d'origine algérienne, tué lors d'un contrôle routier, c'est le moment pour la France de s'attaquer sérieusement aux profonds problèmes de racisme et de discrimination parmi les forces de l'ordre. La réponse officielle de la France a été immédiate. Toute accusation de discrimination systémique parmi les forces de l'ordre est totalement infondée. Ce manque de reconnaissance atteint aussi la plus haute juridiction administrative. En octobre dernier, le Conseil d'État a rendu sa décision concernant l'action de groupe intentée par Amnesty avec 50 organisations de la société civile pour mettre fin au contrôle aux faciès. Le Conseil d'État, tout en reconnaissant que ces contrôles discriminatoires n'étaient pas des cas isolés, a refusé de reconnaître leur caractère systémique et d'imposer à l'État des mesures pour lutter contre les contrôles discriminatoires. Il est crucial que non seulement les pouvoirs publics, mais aussi l'ensemble de la société ouvrent les yeux sur les impacts délétères des discriminations et des discours racistes. La multiplication effrayante des actes antisémites en fin d'année dernière doit nous inciter toutes et tous à un réveil. Il est urgent de lutter collectivement contre toutes les formes de rejet, d'essentialisation, de racisme qui abîment les liens sociaux et violent les droits des personnes concernées. L'État a la responsabilité de protéger et d'assurer le respect des droits sans amplifier les divisions et la stigmatisation de certains groupes. Le vote de la loi Asile et Immigration par une majorité de parlementaires en décembre dernier a été un choc pour les militants des droits humains. Ce n'était pas seulement parce qu'il se situait dans la continuité d'un narratif de rejet des étrangers et de non-respect de leurs droits, ou parce que c'était le 20e texte en 30 ans sur un sujet toujours plus maltraité par nos responsables politiques, mais surtout parce qu'il était parfaitement assumé qu'il piétinait sans vergogne les engagements internationaux de la France et même la Constitution, sans que cela incite le gouvernement à le retirer. La prééminence du droit international fait partie des fondamentaux de l'état de droit, comme le rôle de contrôle d'un juge. L'état de droit dépend aussi de la vitalité des contre-pouvoirs, pouvoirs judiciaires, médias, mais aussi la société civile dans son ensemble. Les atteintes répétées aux libertés associatives, qui sont à l'œuvre depuis plusieurs années, sont à cet égard particulièrement inquiétantes. La dissolution d'associations devrait être un dernier recours exceptionnel et soumise à la décision d'un juge. C'est devenu une arme dégainée trop vite et qui plane comme une menace. Les critiques contre les associations par des responsables politiques se sont multipliées, accusées d'être complices des passeurs parce qu'elles sauvaient des vies en mer ou de faire l'éco-terrorisme lorsqu'elles alertaient sur le climat. En 2023, on a vu des menaces sur les subventions de la Ligue des droits de l'homme, des attaques contre le planning familial, des critiques indignes contre le travail de la CIMAD, accusations en tout genre contre Amnesty International. La répétition est inquiétante. Si nous ne sommes pas encore au point de bascule, chacune de ces atteintes nous en rapproche et contribue à un état de droit dégradé, affaibli, en danger, comme le sont nos droits. En France aussi, il faut les protéger. On va maintenant écouter Anne Sylvestre. Ça ne se voit pas du tout. Pas du tout. «
Les enfants des chômeurs, des sans-abri, des RMistes reçoivent le meilleur de ce qui passe sur nos listes. Couverts de pieds en cap, de vêtements des grandes marques. Fini le handicap, et bien malin qui les remarque. Ça gêne beaucoup moins, et quand ils se lavent les mains, je vous jure, on s'y tromperait, on dirait des enfants des vrais. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout, ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout, ça ne se voit pas du tout. Ces gens dans le métro qui nous imposent leur musique, ou ceux qui parlent trop en recherchant le pathétique, jamais vous ne croiriez qu'ils sont vraiment ce qu'ils prétendent. Ils sont bien habillés, il y en a qui sentent la lavande. Leur faire la charité, moi j'aurais peur de les vexer. Entre nous, eh bien franchement, ils sont pauvres ou ils font semblant. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout, ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout, ça ne se voit pas du tout. Mon épicier m'a dit qu'autrefois dans le voisinage, il y avait des taudis qui déparaient le paysage. Il devait s'y passer les choses que l'on imagine. On ne pouvait laisser proliférer cette vermine. On les a remplacés par des immeubles polissés. Ce qu'on a fait des habitants qui sont relogés depuis longtemps. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Quand ma fille a fauté, j'ai failli la mettre à la porte. Mais j'étais révoltée à la seule idée qu'elle avorte. Il y a des endroits où on peut arranger les choses. Et tout le monde croit qu'en ce moment, elle se repose. Elle a eu son bébé, il était bien un peu foncé. Mais tout de même assez mignon, ça sera mieux pour l'adoption. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout, ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout, ça ne se voit pas du tout. Mon fils qui est très beau va bien se décider, j'espère, à reprendre le flambeau de la famille et des affaires. Il n'a pas l'air pressé de rechercher le mariage. J'ai beau lui présenter des jeunes filles de son âge, il n'y a que des garçons qui viennent le voir à la maison. Mais s'il avait des goûts pervers, je le saurais, je suis sa mère. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Je suis sollicité par les œuvres de la paroisse. Je suis trop occupé pour éprouver la moindre angoisse. Je me lève très tôt pour attraper la première messe. Puis dans les hôpitaux, je vais secourir les détresses. Oui, j'aime mon prochain et je m'applique à faire le bien. Car j'ai un cœur très généreux, mais j'ai l'impression, c'est curieux. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout. Ça ne se voit pas du tout.
Voilà. Bon, j'ai plus beaucoup de temps pour vous parler des mineurs non accompagnés. Et pourtant, ces jeunes, ben, ils font notre pain, construisent nos maisons, s'occupent de nos personnes âgées, etc., etc., et sont des modèles pour nos enfants dans les classes, parce qu'ils ont une volonté de travailler, de s'en sortir, d'apprendre, qui sont extraordinaires. Et on parle d'eux toujours en termes négatifs. Ce sont les mineurs non accompagnés. Et quand ils arrivent sur notre territoire, on les évalue. On évalue leur minorité et très souvent on conteste leurs papiers et leur minorité. Et ils sont mis à la rue pour aller dormir à Marseille, autour de la gare Saint-Charles. Et jusqu'à ce que la juge des enfants finisse par prendre une décision. Et très souvent, elle les reconnaît mineurs. Ils sont alors réintégrés dans le système de l'aide sociale à l'enfance. Mais que de temps perdu et que de drames de ces jeunes forcés de dormir dans la rue. Donc nous avons fait une pétition qui a été signée par plus de 280 personnes qu'on a remis à la présidente du conseil départemental, qui nous a dit qu'en effet, il y avait des trous dans la raquette, etc., qu'il allait en parler au préfet. Aucune nouvelle. On a envoyé un courrier à la presse. Rien n'est paru. Donc, je vous en reparlerai à la prochaine émission, parce que là, je n'ai plus le temps. J'espère que d'ici là, la presse en fera un peu écho, parce que ce sont des jeunes extraordinaires qui méritent d'être accueillis de façon digne et respectueuse des droits humains. Voilà, on termine cette émission par une chanson de Clémence Savely. Ciao.
Tu erres le long des quais, le long des villes, de quart en quart. Tu essaies de t'enfuir et tu traînes toujours la même histoire. Tu as marché sans t'arrêter, loin de ta vie, loin du passé qui te poursuit, et tu avances seul dans le soir. Les jours précaires, les rêves des fées, toutes ces misères, ces cris glacés sont derrière toi. Ce soir t'y vas. Mes amis, ciao, ciao. Mes projets, ciao, ciao. Mon pays, ciao, ciao. Ce soir je pars. Les jours gris, ciao, ciao. Mon frère, ciao, ciao. Mes amours, ciao, ciao. Vers mon histoire. Ces frontières de barbelés, tous ces cercueils de liberté déchirent ta peine et crachent sur la flamme de ton espoir. Tu voudrais vivre la vie, la vraie, celle qui enlace la dignité, loin du vacarme, et tu chantes toujours ton désespoir. Les jours de guerre, le cœur brisé, les nuits de peine à chavirer sont derrière toi. Ce soir t'y vas. Mes amis, ciao, ciao. Mes projets, ciao, ciao. Mon pays, ciao, ciao. Ce soir je pars. Les jours gris, ciao, ciao. Mon frère, ciao, ciao. Mes amours, ciao, ciao. Vers mon histoire. Ciao, ciao, mes amours, ciao, ciao.